Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Absolu d'Étincelle, votre rendez-vous scientifique ludique du premier mardi du mois à 17h10. Vous avez été des milliers à souhaiter pour vos vœux de l'amour à vos proches pour l'année 2007. Eh bien ce mois-ci, l'Absolu d'Étincelle plonge au cœur du sentiment souverain, tout-puissant, l'amour. Flagrance de roses et de jasmin délicats pour certains ou de musc puissant. Car si l'amour est le domaine des poètes et des romanciers, il a aussi été étudié dans ses aspects scientifiques depuis la fin du siècle dernier. Nous vous proposons donc de disséquer un instant les comportements amoureux. Deux journalistes aux phéromones féminines aux commandes ce mois-ci, Delphine Gomez
et Magali Volpes,
avec la participation de Violaine. La première actualité décodera pour vous l'amour sous l'angle de la biochimie. La seconde pénétrera les univers virtuels du World Wide Web, où l'amour est aussi bien présent. La revue de presse brossera ensuite l'actualité internationale chinoise, américaine et européenne. Puis nous traiterons la rubrique « Neurones de papier » où quelques ouvrages thématiques seront abordés. Et nous finirons bien sûr comme toujours avec les chroniques sud-américaines de Pedro Lima. Absolu d'Étincelle, c'est parti.
L'amour, sujet universel, objet de convoitise, tout le monde est à la recherche de l'amour. Sentimental, platonique, avec un grand A ou un grand Q, l'amour a ce petit goût d'irrationnel qui nous attire tous. Et lorsque je dis tous, je parle aussi de ces scientifiques qui, tu l'as dit Magali, tentent de décortiquer ce sentiment multifacette. Effleurons dès à présent son visage moléculaire, car l'amour est aussi une histoire de biochimie. Mais l'amour étant complexe, je ne vous présenterai que trois des molécules qui ont su me séduire. Commençons par Mademoiselle Nerve Growth Factor, Miss NGF de son petit nom. Je dis mademoiselle parce que cette molécule est responsable de l'intensité des émotions des premiers instants d'un couple, lorsque le cœur palpite au moindre geste, au moindre mot prononcé par l'autre, et que l'amour remplace toute autre forme de nourriture. Présente en forte quantité dans le sang des amoureux transis, une étude scientifique a démontré qu'au bout d'un an de vie de couple, son taux revenait à un niveau normal.
Alors, est-ce que ça veut dire que la passion, le phénomène passionnel, est voué à s'éteindre obligatoirement?
Selon Miss Cupidon NGF, la passion durerait au mieux un an, le temps pour elle de se dissiper. Une fois revenue à un taux plus basal et stable dans le temps et dans le sang, la passion laisserait place à l'amour raisonnable et sincère, celui qui dure, enfin du moins jusqu'à l'apparition suivante de GNF.
Ok.
Le nom de ma deuxième molécule vedette vous est certainement inconnu. Mais si je vous dis qu'elle intervient dans la persistance du plaisir sexuel, peut-être tendez-vous un peu plus l'oreille. Si nous connaissons tous l'existence de la très médiatisée pilule bleue, je vais bien entendu parler du Viagra, recommandé pour lutter contre les troubles de l'érection, il est un problème masculin beaucoup plus fréquent et beaucoup plus tabou qui n'avait pas, jusqu'à peu, de remèdes médicamenteux. Mais aujourd'hui, la dapoxétine représente un espoir pour les 30% de la population mâle qui souffrirait, je vous le donne en mille, d'éjaculation prématurée. Selon la prestigieuse revue médicale The Lancet, la dapoxétine permettrait de multiplier le temps des rapports sexuels par deux ou trois, augmentant de ce fait le sentiment de satisfaction des deux partenaires. Comment ? Eh bien, d'une façon analogue au mécanisme d'action des antidépresseurs, comme le Prozac, en modulant les taux de sérotonine, un neurotransmetteur impliqué notamment dans la régulation de l'anxiété et de l'humeur.
Et pour finir, Delphine, tu vas parler d'une molécule qui, on peut le dire quand même, t'a totalement bouleversée, voire chamboulée.
Complètement. En fait, au cours de mes recherches sur le web, je suis tombée sur un dossier du journal du CNRS qui comportait une information pour le moins surprenante. Alors, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à faire l'amalgame. Lorsque l'on me demandait de parler des processus d'attirance entre un homme et une femme, outre les aspects physiques et comportementaux qui peuvent jouer un rôle non négligeable, il faut bien l'avouer, j'avais tendance à attribuer une partie de ce désir de se rapprocher de telle ou telle personne et non de telle ou telle autre aux phéromones, ces molécules inodores que nous dégageons et qui induisent une communication subliminale et de nature animale. Et bien en fait, selon M. Benoît Schall, directeur du Centre européen des sciences du goût à Dijon, J'ai, et plus largement nous avons tendance à confondre deux notions, celle d'odeur naturelle et celle de phéromone. Et en fait, ce n'est pas du tout pareil, Magali et Violaine. Les odeurs corporelles sont propres à un individu et forment son identité olfactive. Elles suggèrent des informations sur son état physiologique ou émotionnel, en fait sur son identité. Alors que les phéromones, elles, sont constituées d'un composé qui est unique et commun à une espèce. Et elles induisent des comportements automatiques et stéréotypés. Alors, c'est pas parce que certains insectes communiquent essentiellement par le biais de leurs phéromones attitrés que des molécules ont été identifiées chez les mammifères aussi. Les mammifères dont nous faisons d'ailleurs partie. En plus de cela, chez l'homme, l'organe capable de détecter ces phéromones, l'organe voméronasal, serait atrophié. C'est dire.
Mais alors par contre, en ce qui concerne les phénomènes de synchronisation des cycles ovariens chez les femmes, c'est-à-dire que quand on est en communauté, les femmes petit à petit ont leurs règles au même moment, mmh. Il me semblait que ça relevait d'une influence justement d'une phéromone.
Bah, Magali, c'est l'hypothèse scientifique la plus probable effectivement, mais rien n'a en fait été prouvé. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'existence d'une phéromone humaine reste en suspens, mais que les différentes théories s'accordent sur au moins un point. Il n'y a chez l'homme pas de lien entre phéromones et attirance sexuelle.
Une histoire à suivre donc au niveau biochimique et je vous invite maintenant à passer dans un monde binaire et pourtant complexe de la réalité virtuelle où l'amour prend une place importante tout de même. Alors évidemment, en premier lieu, on ne peut pas ne pas mentionner l'existence des sites de rencontres virtuelles qui sont de plus en plus nombreux et qui nous proposent, j'adore, l'amour en un clic. Et quand même, il y a 40% des internautes, bon, selon une étude internéciale, qui utiliseraient ces services. Donc ça m'a paru quand même assez énorme, que ce soit d'ailleurs pour l'amour ou l'amitié. Mais majoritairement, si le courant passe, la réalité virtuelle n'est qu'une étape et le cybercouple franchit en général le pas de la rencontre en chair et en os. Donc c'est qu'une étape. Mais il y a quand même sur le net aussi des sites qui ont pour vocation de créer quasi uniquement des relations virtuelles. Des créateurs hollandais notamment revendiquent haut et fort leur particularité. Dans un premier temps, former des couples entre hollandais et indonésiennes via le net, sans que les deux partenaires soient réellement réunis. Les concepteurs du site proposent des dîners romantiques à distance, par l'intermédiaire d'une webcam branchée d'un côté comme de l'autre, avec un cadre adapté pour ce genre d'occasion. Donc vous pouvez imaginer les bougies, les chandelles, les flonflons derrière, voilà, de manière à recréer vraiment un cadre quasiment réel. Alors à outrance, certains psychiatres dénoncent tout de même les dangers d'Internet qui peut permettre de se réfugier dans un monde totalement virtuel et du coup devenir désadapté dans le monde réel et faire naître entre autres, pour rester dans le domaine amoureux, des comportements de sexe-dépendance. Alors Philippe Spoljar introduit une notion, celle de sexualité assistée par ordinateur, capable selon lui d'effacer les frontières entre masturbation et rapport sexuel. Et nous entrons alors dans de la cybersexualité, qui est un terme utilisé par Paul Virilio, qui est auteur d'un ouvrage précurseur déjà dans les années 95, voire de télécopulation. Alors qu'est-ce que la télécopulation ? Mais c'est une sexualité qui se fait vraiment à distance et qui passe tout de même par les cinq sens grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors ces technologies utilisent des outils qui renvoient des stimuli visuels et auditifs qui permettent non seulement d'avoir l'impression de toucher l'autre à distance, avec donc des gants qui reproduisent la sensation de la texture de la peau, mais alors, il y aurait aussi la possibilité d'enfiler une combinaison spéciale où il serait possible de faire vraiment l'amour à une personne à l'autre bout du monde, ces impulsions étant transmises par des capteurs permettant d'accéder jusqu'à, paraît-il, l'orgasme. Cela dit, au dire de ceux qui ont pu tester la mise de combinaison, cela est assez déjà anaphrodisiaque pour bloquer le plaisir. Donc il y a des progrès qui sont à faire, mais bon, la technologie œuvre dans ce sens, donc c'est qu'il y a des débouchés tout de même.
C'est pas mal, mais tu parles de relations sexuelles ou de télécopulation, mais est-ce qu'il y a une forme d'amour où les individus en fait, se tomberaient amoureux donc via ce portail, peut-être par exemple amoureux d'un personnage totalement virtuel?
Alors oui, ça c'est très peu connu, mais ça existe et ça s'appelle la robophilie. Et c'est né au Japon, et c'est fréquent aux USA et ça parvient aussi en France. Donc ce sont des personnes qui tombent amoureuses d'un personnage virtuel, souvent issu de jeux vidéo, dont tels que Sonic, Donkey Kong, voilà. Et vraiment, ils vouent leur vie, toute leur vie, c'est pas une passade qu'on pourra avoir à l'adolescence où on peut tomber amoureux d'idoles ou de personnes inaccessibles. Ils passent vraiment leur vie à aimer cette personne virtuelle. Et les expressions amoureuses et même d'ordre sexuel, sont concrètes et quotidiennes. Les personnes sont majoritairement fidèles à leur personnage. Ils se marient parfois même via le net. Et souvent pour ces personnes, l'amour avec une personne réelle les dégoûte. Ils n'imagineraient pas passer, passer à autre chose. Voilà. Bon, mais au-delà du domaine de l'amour, tout un monde virtuel s'offre à l'internaute et on peut vraiment jouer à vivre. Et le jeu le plus complet en la matière s'appelle Second Life, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous pouvez y accéder en tapant http://secondlife.com. Et ça ressemble un petit peu aux Sims pour ceux qui connaissent. Donc on s'inscrit dans un premier temps. Bon, le site essaierait quand même rapidement de vous soutirer de l'argent juste pour voir. Je n'ai pas testé, mais voilà, ce sont les oui-dire. Puis le programme est lancé. Et alors ça y est, vous voilà dans l'univers standardisé de Second Life. Vous choisissez votre apparence, bon, si possible lissez de vos défauts, et débarquez fraîchement sur une nouvelle terre. Vous pouvez chatter avec les personnes autour de vous, en anglais cependant pour l'instant, eux-mêmes à l'apparence lisse et parfaite. Et le dieu du jeu, eh bien, il s'appelle Lindell Dollar, car même si le jeu est gratuit, tout se paye comme dans la vie réelle. Vendre, acheter, tout vous est accessible. Investir peut vous rapporter de l'argent vrai et non pas virtuel. D'où la nécessité de demander de façon optionnelle vos coordonnées bancaires dès l'inscription. Bref, une nouvelle économie en ligne se dresse.
Mais est-ce que la réalité virtuelle est récente ?
Bien, quand même, ça daterait du milieu des années 50, sous une forme archaïque. Elle aurait été, entre guillemets, inventée par Morton Heilig avec son Sensorama Simulator. Alors, c'est une invention qui ressemblait un peu aux jeux que l'on peut voir aujourd'hui dans les foires de courses de voitures, où on peut tenir un volant et avoir l'impression d'être dans sa propre voiture de course. Donc là, la personne s'asseyait sur un siège qui vibrait, et son corps était entouré d'un caisson constitué d'un système vidéo en 3D qui fournissait du mouvement, de la couleur bien sûr, du son stéréo, mais aussi des odeurs, du vent à l'aide de petits ventilateurs situés près de la tête. Donc ainsi, il était possible de simuler un voyage à motocyclette ou en automobile, à la campagne ou en ville. Bon, depuis, les moyens technologiques ont explosé et on peut considérer que la plupart des domaines de la vie courante pourront peu à peu bénéficier des avancées de la réalité virtuelle. Alors par exemple, dans le secteur médical, avec des téléconférences comme celles déjà réalisées par le SAMU et qui aident à la prise de décision pour un soignant. Ça les met dans des conditions réelles.
Il y a aussi dans le secteur de l'enseignement, pour faire appel à la perception et aux cinq sens de l'étudiant et permettre un apprentissage plus rapide.
Exactement, et aussi dans le secteur de la communication, où le langage des signes peut déjà être traduit en parole par un programme qui s'appelle GloveTalker, voilà, et dans beaucoup d'autres domaines comme l'auto-école et les simulations. Voilà, et pour finir, donc en nous immergeant cette fois dans la réalité écologique du moment, je vous propose de découvrir un jeu virtuel où vous allez pouvoir mettre à l'épreuve votre amour pour la planète. Alors ce jeu s'appelle Vegas, c'est un jeu en ligne qui simule la manière dont les modes de vie influent sur le changement climatique. Le joueur établit son propre profil de manière à recréer sa propre maison en 3D, mais alors vraiment dans tous les détails de l'appareil ménager, du lave-vaisselle au thermostat, voilà, tous les gadgets de la maison. Et après, on est confronté à différents scénarios dans lesquels on doit choisir son style de vie en émettant le moins possible de gaz à effet de serre, tout en maintenant un confort dans la maison et en assurant sa fonctionnalité. Donc vous pouvez aller jouer à ce jeu sur le site http://alba.jrc.it/vgas/ ou tapez VGAS sur n'importe quel moteur de recherche, vous le trouverez facilement. Alors maintenant, nous rentrons dans le petit monde de la revue de presse où nous accueillons une nouvelle voix, donc Violaine Boré.
Bonjour.
Et donc tu commences avec une information qui nous vient des USA.
Oui, alors tout d'abord, c'est une des dernières découvertes en paléontologie où quand l'évolution du vol rejoint celle de l'aviation, en fait, cette question s'est posée depuis la découverte en Chine d'un fossile de petits dinosaures à plumes. En effet, il en existe, hein, des dinosaures à plumes du Crétacé. Enfin, il en a existé plutôt. Datant du Crétacé, et son petit nom scientifique est le Microraptor Guy. Donc ce dinosaure est équipé de deux paires d'ailes et d'une longue queue qui est aussi recouverte de plumes. Donc il devait sûrement planer de branche en branche et n'était sans doute pas capable de prendre son envol depuis le sol. Mais donc ce qui fait débat parmi les scientifiques, c'est surtout l'utilisation qu'il avait de sa deuxième paire d'ailes. Donc pour certains, les pattes arrière se seraient allongées le long de son corps, permettant à la seconde paire plus petite de fonctionner en tandem avec les autres ailes, comme le fonctionnement d'une libellule en fait. Mais pour d'autres scientifiques, notamment un paléontologue américain et un ingénieur canadien, ils estiment que ses pattes étaient repliées sous le corps et que les secondes paires d'ailes étaient placées sous les autres en parallèle, donc comme pour les biplans. Comme quoi, déjà au Crétacé, donc, la nature avait déjà devancé les frères Wright et leur premier biplan, et donc il faudra quand même attendre d'autres fossiles du même genre pour confirmer cette analyse.
Donc c'est une découverte qui a été faite en Chine.
Le
fossile.
Le fossile a été découvert en Chine, oui.
Voilà. Et donc pour continuer en Chine.
Parce que vous le savez, le 18 février, la nouvelle année chinoise commence et on rentre en fait dans l'année du cochon. Donc la Chine est à l'honneur ce mois-ci. D'après le magazine China Tech News, la Chine aurait développé son propre codec audio multipiste. Pour rappel, un codec est un procédé qui permet de décoder et de transformer un signal numérique, couramment de la musique en MP3, en un format de données informatique. La Chine a donc révélé son propre standard technologique pour le codage et le décodage audio numérique multipiste, définissant un cadre juridique pour la propriété intellectuelle en vue d'une industrialisation. Le standard a été développé par une entreprise chinoise, dont le nom est imprononçable, après avoir bien entendu reçu évidemment l'approbation de l'administration, puisque vous savez qu'en Chine, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Cette norme pourrait permettre à la Chine de s'affranchir de sa dépendance technologique et financière envers les normes étrangères, telles que MP3 justement, et augmenter sa compétitivité sur le marché mondial.
Moi, j'ai une petite information d'Écosse qui m'a fait bien sourire, qu'on peut trouver dans Le Monde, et qui concerne les candidats à la présidentielle. Donc s'ils veulent connaître leurs chances de réussir aux prochaines présidentielles, apparemment, plutôt que de se fier au sondage, ils pourraient utiliser la démocratie faciale. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des psychologues écossais des universités de Stirling et d'Aberdeen qui ont fait une expérience dont les résultats sont relatés dans la très sérieuse revue Evolution and Human Behavior, qui est datée de janvier, et dont les résultats sont assez troublants. En fait, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une photo d'un visage d'un parfait inconnu, lambda, et ils ont inséré dans cette image des traits appartenant soit à Tony Blair, par exemple, soit à William Hague, donc son adversaire lors des élections parlementaires de juin 2001. De telle manière, bien sûr, que ni l'un ni l'autre ne soient identifiés à la première vue dans le visage de l'inconnu. Et après, ils ont arrêté des passants britanniques dans la rue. Et ils leur ont montré les deux versions modifiées de l'inconnu. Et ils leur ont demandé leurs intentions de vote. Voilà, si ces deux candidats étaient amenés à la présidentielle pour lequel vous voteriez. Cette étude a été réalisée sur une centaine de personnes. Elle a obtenu un score semblable au détail près à celui des vraies élections de 2001. Ils ont fait ça pour 9 élections un peu partout dans le monde, donc avec des visages qui étaient moins connus par les gens, dont les passants qu'ils interviewaient dans la rue. Et à chaque fois, il y a eu le résultat de l'élection présidentielle, sauf entre guillemets quand, pour la dernière élection des États-Unis, où là, c'est Al Gore qui a été donné gagnant par les personnes. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil souriant. Et donc, du coup, Anthony Little, qui a fait cette étude, conclut que les caractéristiques faciales exercent un effet important sur le choix du vainqueur. Par contre, on ne pourrait pas déterminer, a priori, des critères qui font que telle personne va gagner ou pas, parce qu'en fait, ça se réalise à travers une interaction, c'est-à-dire c'est en fonction de la personne qu'on a en face qu'il y a certains traits qui apparaissent plus convenables que d'autres. Donc voilà, à suivre aussi, peut-être qu'ils vont enquêter sur...
Pour avril.
Voilà, pour avril prochain. On retourne aux USA, Delphine ?
Avec des chercheurs de l'université d'Iowa qui ont découvert une petite zone de notre cerveau nommée insula. En fait, ils ne l'ont pas découvert, mais ils ont découvert qu'une lésion de l'insula serait impliquée dans les mécanismes de dépendance au tabac. Alors, apparemment, les fumeurs victimes d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné donc une lésion de cette zone auraient perdu leur addiction. Les recherches de l'équipe montreraient que l'insula agit essentiellement sur le besoin ressenti par le fumeur et non sur la sensation de plaisir qui est liée à la consommation tabagique. Concernant les voies thérapeutiques, il ne s'agit bien évidemment pas d'endommager de façon volontaire l'insula des fumeurs pour les débarrasser de leur dépendance, mais plutôt d'élaborer des molécules qui inhiberaient cette zone cérébrale. Notons par ailleurs que ces résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Science, quelques jours avant l'élargissement de l'interdiction de fumer à une partie des lieux publics, loi appliquée en France depuis le début du mois.
Donc ça va en intéresser plus d'un, à mon avis. Et on finit avec une découverte, une information britannique.
Oui, britannique, mais en fait qui se situe sur une des îles indonésiennes de Java. Et donc sur une de ces îles, depuis le mois de mai dernier, un volcan de boue s'est formé à la suite d'un mauvais forage d'une entreprise pétrolière. Donc selon les géologues britanniques, l'écoulement n'est pas prêt de s'arrêter. C'est une catastrophe pour les habitants car 11 000 personnes ont déjà fui la zone. Elle est devenue inhabitable. En plus de la boue que le volcan rejette, il rejette également du soufre et des autres gaz. La zone correspond à peu près 10 km² et selon les scientifiques, elle risque également de s'effondrer. Quant aux géologues, eux ont rarement l'occasion d'étudier d'aussi près la formation d'un de ces volcans de boue. Et ils sont donc en général provoqués par des poches de gaz souterraines qui poussent les fluides et les boues vers la surface. Et ils sont souvent nombreux le long des failles et entre les plaques tectoniques. Donc on sait bien que les îles indonésiennes font partie d'une zone fortement tectonique. Et les chercheurs, en fait, comparent cette éruption à celle qui s'est produite donc en 1979 au large de Brunei sur une plateforme pétrolière qui avait provoqué une remontée d'eau que la compagnie pétrolière, elle, a mis au moins 30 ans à réussir à stopper.
Et pour adoucir cette dernière petite info, une courte pause musicale.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. His fears in my dreams, sees in my guts. He floods me with dread. So
vous venez d'écouter un extrait de l'album Back to Black d'Amy Winehouse.
Et nous revenons dans l'univers des amours avec la rubrique Neurones de papier, où nous vous proposons quelques ouvrages en lien avec les thèmes évoqués en première partie d'émission. Alors pour poursuivre l'aspect biochimique de l'amour, vous pouvez lire L'amour scientifié et les mécanismes de l'amour de Michel Audan, qui est un obstétricien reconnu français. Et pour lui, l'amour, ou le sentiment d'attirance, trouve ses sources au niveau cellulaire sous la forme de récepteurs qui se lient aux informations parvenant de l'extérieur. Donc, le livre est facile d'accès. Vous découvrirez aussi des citations mythiques, comme celle de Napoléon à Joséphine, que j'adore. « J'arriverai à Paris demain soir, ne te lave pas. » Ceci donc pour aborder l'influence des odeurs corporelles dans la relation amoureuse. Alors, une autre manière d'aborder l'amour, c'est aussi le livre « La biologie des passions » de Vincent Jean Didier, qui propose, lui, d'interroger certaines grandes questions comme « Qu'est-ce qu'aimer ?» Voilà, déjà une question énorme. Ou d'autres comme « Qu'est-ce que le désir, le plaisir, la douleur ?» Et il propose ainsi une véritable théorie des émotions. Au sujet des dépendances psycho-émotionnelles, à noter le livre de Matisiak, Jean-Claude et Valeur, « Les nouvelles formes d'addiction, l'amour, le sexe et les jeux vidéo », qui permet là de comprendre le passage, en fait, ténu de plaisir à attraction fatale, puis vraiment à dépendance infernale, qui amène certains individus à ne pas pouvoir se passer de sexe ou de jeux vidéo une seule journée. Et Delphine, tu as aussi déniché un livre sur une autre forme d'amour.
L'art d'aimer la science, de Pascal Novelle, qui est paru, lui, en 2000 aux éditions Presse universitaire de France, dans la collection Science, Histoire et Société. Donc Pascal Novelle, c'est un scientifique qui s'intéresse dans ce livre aux raisons profondes qui poussent certaines personnes à se passionner pour la science. Pour vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez y trouver, voici un extrait de la préface rédigée par le biologiste François Jacob, qui est quand même membre de l'Académie des sciences depuis 1977 et qui a été élu à l'Académie française en 1996.
38e fauteuil,
c'est pas n'importe qui.
La précision est importante.
Pourquoi un petit groupe d'hommes dans le monde s'agite-t-il avec tant de frénésie pour se livrer à la pratique de la science ? Pourquoi font-ils des expériences ? Bâtissent-ils des théories pour ordonner des faits ? Par quelle nécessité des hommes mettent-ils tant de passion ? Prennent-ils tant de plaisir à vouloir interroger ce qu'ils appellent la nature ? C'est cela que Pascal Novelle voulait comprendre, non pas la logique des scientifiques, leur mode de raisonnement, mais leur raison profonde qui pousse un individu à s'adonner à la science.
Et on termine avec un petit clin d'œil à Bertrand Jordan, généticien et qui a animé de nombreuses cartes blanches à un chercheur à étincelles et qui a écrit un livre qui s'intitule « Le chant d'amour des concombres de mer » et où il vous raconte de manière personnelle et engagée la théorie de l'évolution, la compréhension du cancer ou encore le développement des thérapies géniques. Voilà, et à présent, traversons la mer à dos de concombres et rejoignons Pedro Lima en direct de Buenos Aires avec sa chronique à Latine.
Hola, buen día. Salut à toutes et à tous. Bienvenue à Buenos Aires, amis auditrices et auditeurs de l'hémisphère nord, pour cette nouvelle Chronica Latine consacrée, comme chaque mois, à ce qui fait l'actualité des sciences et de l'environnement sur le continent latino-américain. Des chroniques qui nous emmèneront aux quatre coins du vaste continent, un continent qui lutte plus que jamais pour se faire une place au soleil des pays développés et qui compte, à des degrés divers, sur la progression des connaissances pour y parvenir. Direction les Andes argentines à présent, où des scientifiques argentins justement ont découvert dans une lagune perchée à 4600 mètres d'altitude d'intéressantes et étonnantes bactéries présentant des résistances inattendues au rayonnement ultraviolet. C'est la chercheuse Maria Eugenia Farias de l'université de Tucumán dans le nord-est de l'Argentine qui a analysé ces bactéries grouillant dans les eaux salées de lagunes appelées Lagos Azules, les lacs bleus. Ils sont situés sur les hauteurs de Catamarca, sur les contreforts des Andes. Appelés Acinetobacter johnsoni, ces micro-organismes pourraient présenter un intérêt biotechnologique important à partir des études de leur pouvoir de résistance exceptionnel au fort rayonnement ultraviolet qui caractérise ces zones de montagne. Processus biologique qui pourrait être dans un second temps mimé chez l'homme afin de protéger des populations particulièrement exposées, comme les habitants des Andes ou des régions australes du continent, soumis à des flux d'UV particulièrement élevés.
Et voilà, les flagrances de l'absolu d'étincelle ont distillé pour vous tous ces arômes. Nous espérons vous avoir donné quelques pistes du monde des sciences pour que vous puissiez les reconnaître et les expérimenter dans vos mondes amoureux. N'oubliez pas que les effluves sonores étincelants vous parviennent chaque mois grâce au talent de Bertrand Bruel, réalisateur de l'émission que nous remercions.
Au revoir.
Au revoir.
Si vous la célébrez, nous vous souhaitons aussi une Saint-Valentin faite de fantaisie et de facéties. Car, pour conclure sur une citation d'Einstein, la seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour.